Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dans 18 jours, la plupart des chrétiens vont fêter un peu partout dans le monde la mort et la résurrection de Jésus. Au milieu du carême, et oui, à la mi-carême était il y a quelques jours à peine, je vous propose une émission à l'école des Hébreux, vous savez, ces juifs qui ont traversé la mer morte à pied. Car des miracles, au dire de mon invité de ce matin, Dieu pourrait bien en faire d'autres pour nous. Et pourquoi pas, même dans les 18 jours qui viennent, une invitation à comprendre et à vivre le carême autrement. L'Exode, les Hébreux et nous, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous, pour nous accompagner, François Dromard, vous êtes laïc du diocèse de Toulouse, conférencier, auteur d'un ouvrage, on avait fait une émission en son temps, La famille creusée de nos richesses, paru aux éditions Encre Toile. Et ce matin, vous êtes là pour nous parler donc des Hébreux et de l'Exode. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Merci d'avoir fait un détour par nos studios. Alors, vous aviez suivi, vous, qu'on était déjà à la mi-carême ou pas?
Comment ?
Vous aviez suivi qu'on était déjà à la mi-carême ?
Oui, oui, bien sûr. Hein. Le carême est une longue marche et c'est bien qu'il y ait aussi certaines étapes.
Qu'il y ait une halte. Est-ce que vous faites partie de ces chrétiens qui, de temps en temps, se disent « Mon Dieu, le carême, on est déjà aux deux tiers et qu'est-ce que j'ai commencé à en faire de ce carême ?»
Je vois davantage le carême comme une marche joyeuse. Pour moi, c'est plutôt un temps... Un temps béni, un temps de grâce, plus qu'un temps d'effort et un temps pénible. Je le vois plutôt comme une période finalement agréable.
Alors ce matin, on est donc là pour parler de l'Exode, puisque on peut donc choisir les Hébreux comme guide d'une certaine manière dans ce temps de carême. Ça peut paraître un peu incongru. Pourquoi est-ce qu'à votre avis c'est une bonne idée?
Alors d'abord parce que le récit de l'Exode est une belle aventure, c'est le récit fondateur pour le peuple hébreu et à la lecture de ce livre de l'Exode, il y a énormément de questions, il y a énormément d'événements qui se déroulent et donc on peut aussi en tirer différentes étapes. Et différents moments importants dans la vie des Hébreux et dans notre vie aussi.
Voilà, c'est un peu nos pères dans la foi, hein, nos frères aînés, comme le dit la tradition. Donc on peut imaginer qu'ils ont encore des choses à nous dire. Alors dans ce chemin, on va suivre différentes étapes. On peut déjà peut-être les sérier. Il y en a quatre à vous lire. Je vous laisse les présenter.
Alors la première étape, c'est l'esclavage en Égypte. Les Hébreux qui ont... étaient accueillis par une terre, l'Égypte, qui était une terre accueillante quelques générations auparavant, se sont retrouvés progressivement maltraités et esclaves. Et donc il y a eu d'abord un cri vers le Seigneur. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est que donc Dieu... a répondu, a entendu ce cri. Oui, j'ai entendu le cri monter vers moi. Et Dieu, donc, veut libérer son peuple. Il choisit Moïse comme médiateur.
Donc, deuxième étape, la libération.
Et la deuxième étape, donc, ça va être cette libération qui va se manifester, se concrétiser par la Pâque, par cet ange exterminateur, voilà, très énigmatique, et puis surtout la traversée de la mer Rouge qui va permettre au peuple hébreu de s'enfuir et d'aller vers la terre promise et d'engloutir aussi les Égyptiens.
Troisième étape.
Et troisième étape, les Hébreux, lorsqu'ils vivent ce moment formidable, ils s'aperçoivent que la terre promise n'est pas encore là et qu'il faut continuer à marcher. Et donc, c'est cette traversée du désert qui va être la concrétisation de cette libération qui va se faire pendant 40 ans, puisque le peuple va errer dans le désert pendant un certain temps. Avant la dernière étape, l'entrée dans la terre promise.
Voilà. Alors, on va essayer de faire ce chemin. Votre conviction, c'est que donc, les Hébreux ont quelque chose à nous dire, à nous, et puis vous mouillerez la chemise, si je puis dire, en nous ouvrant la marche tel Moïse, en parlant à la première personne et en essayant de voir quelle lecture personnelle vous pouvez faire de cette méditation. Si on commence donc par le début, l'esclavage en Égypte, vous rappelez aussi qu'il fut un temps, avant que ça se passe mal, où les Hébreux ont fini presque par l'oublier. Ça m'a frappé dans la conférence que vous m'avez envoyée, où ça se passait pas trop mal, du temps de Pharaon et de Joseph.
Oui, le patriarche Joseph est arrivé un petit peu en Égypte, prisonnier au début, et puis est devenu presque le sauveur, on dirait peut-être le premier ministre de Pharaon, et a... grâce à son charisme de pouvoir interpréter les songes, a permis au peuple égyptien de préparer le temps de famine. Et c'est ce qui a aussi permis aux pays voisins de venir acheter du blé pour subvenir à leurs besoins. Et c'est ce qui va permettre aussi aux Hébreux de s'installer et d'être accueillis de manière... chaleureux par les Égyptiens.
Donc il y a eu un temps heureux, mais comme vous dites, en tout cas, Joseph étant mort depuis longtemps, ils furent considérés comme dangereux par les Égyptiens, et ça c'est la suite de l'histoire. Ils étaient donc réduits en esclavage.
Alors ça s'est sans doute fait très, très progressivement, et donc les Hébreux se sont multipliés, et ils devenaient quelque part un peu gênants. Et donc il y a eu toute cette série un peu de maltraitance, de désir de réduire les Hébreux.
On peut citer un passage du livre de l'Exode, hein. Les Israélites gémissant de leur servitude crièrent et leur appel monta vers Dieu du fond de leur servitude. Dieu entendit leur gémissement, Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et Dieu se fit connaître.
Voilà, c'est le cri en fait des Hébreux qui va permettre à Dieu de se manifester.
Donc la première étape, c'est qu'il faut apprendre à crier vers Dieu, c'est ce qu'on entend en fait. Hein.
Voilà, tout à fait.
Mais ça, on fera peut-être la lecture après. Après, vous laissez entendre que Dieu choisit toujours des hommes qui n'ont pas la compétence requise pour accomplir la mission qu'il donne. J'ai noté ça aussi. En l'occurrence, là, c'est Moïse qui est choisi comme médiateur.
Alors, c'est très récurrent dans la Bible. Dieu choisit souvent des hommes qui ne sont pas qui n'ont pas forcément les qualités de pour remplir la mission. Et Moïse va même un peu regimber en disant « mais je suis un homme qui ne sait pas parler ». La tradition va même jusqu'à dire qu'il était peut-être bègue. Dieu va lui dire « mais voilà, je te donne mon bâton et c'est par la puissance de Dieu que tu vas agir ». Donc c'est une invitation à vraiment s'en remettre à Dieu, et on va le voir aussi pour les Hébreux, c'est la confiance qui prime.
En l'occurrence, donc c'est le reste, on le connaît un petit peu, hein, en tout cas pour la période esclavage et la libération. Donc c'est la sortie d'Égypte avec la nuée qui précède les Égyptiens aussi. Ça, vous parlez souvent de la nuée dans votre conférence. C'est Dieu qui est premier en fait,
c'est
qui
la
marche
présence,
devant.
Oui, c'est un petit peu la présence de Dieu qui est d'ailleurs aussi précédée par les ossements de Joseph qui avait demandé à ce que lorsque les Hébreux reviendraient dans la terre promise, on ramène aussi ces ossements.
Cet événement est l'élément fondateur du peuple hébreu qui devient véritablement à ce moment-là le peuple de Dieu lié avec lui par une alliance éternelle, dites-vous. Alors, et nous dans tout ça, si on en reste à cette première étape, esclavage-libération, quel parallèle vous faites ?
Alors, moi je crois que vraiment le cri, c'est la prière, c'est l'élan du cœur, c'est quelque chose qui est entendu de la part du Seigneur. Si on fait un parallèle avec l'Évangile, on s'aperçoit que Pierre, par exemple, crie à plusieurs reprises « Seigneur, sauve-moi » et aussitôt Jésus vient le relever. Donc
la première étape, c'est de se rendre compte qu'on est chacun en esclavage, c'est ça ? Et qu'il faut apprendre à crier.
Alors, voilà, je crois que pour crier, c'est parce que bien souvent, c'est la souffrance qui nous fait tourner vers Dieu. C'est parce que on ressent un manque, on est vraiment dans l'épreuve, que nous crions vers Dieu. Et ce cri est l'expression justement de notre désir d'être libéré. Donc peut-être la question, me semble-t-il, très importante à se poser, c'est: est-ce que nous avons besoin d'être sauvés? Est-ce que nous avons besoin d'être libérés?
Vous dites souvent d'ailleurs qu'on a souvent tous des histoires douloureuses, et du coup on a revêtu comme une combinaison de survie, une carapace, qui fait qu'en fait on ne parle pas souvent à Dieu en vérité comme ça.
Eh bien, je crois aussi que nous recherchons souvent la sécurité avant la liberté. C'est peut-être même actuellement...
C'est un instant de survie presque aussi. Hein.
Oui, c'est un instant de survie. Et puis, alors, si on veut faire peut-être une petite aparté sur cette notion de blessure, c'est que nous sommes créés par amour et pour l'amour. Et l'enfant, dès qu'il naît, il s'aperçoit que ce besoin absolu d'amour, il est confronté à des personnes qui ne l'aiment pas parfaitement. Et donc, il va mettre en place des comportements, des mécanismes de défense pour pouvoir réagir. On peut, par exemple, penser que l'enfant va soit être... un enfant modèle qui essaye de répondre aux désirs de l'adulte, ou au contraire un enfant rebelle qui va se manifester pour quémander l'amour. Et donc on va mettre en place des mécanismes de défense qui, en fait, au début sont des mécanismes positifs qui nous permettent de nous en sortir, mais qui sont finalement mortifères et que l'on garde aussi dans l'âge adulte. Et donc on a besoin de prendre conscience de ces ornières dans lesquelles nous sommes toujours plongés. Et on s'aperçoit que finalement nous chutons toujours de la même manière. On retombe toujours dans les mêmes pièges, dans les mêmes tentations. Parce que on est un peu comme programmé, on a pris des
plis.
Oui, des plis, des masques, des carapaces qui nous empêchent d'être vraiment libres.
Alors vous dites que l'appel au secours, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Vous avez une conviction, c'est que Jésus répond aussitôt. Aussitôt, c'est donc un adverbe qui revient souvent dans l'évangile selon saint Marc, justement. Vous, votre histoire, quelle est-elle sur ce sujet de... Qu'est-ce que vous voulez nous partager à titre personnel, donc sur l'esclavage et la libération et ce cri vers Dieu?
Alors, personnellement, c'est souvent quelque chose qu'on a partagé avec mon épouse en couple, parce que on n'a pas forcément la même sensibilité. Et pour moi, le cri, pour moi, ça me paraît, chaque fois que j'ai eu des difficultés, que j'étais vraiment dans le creux de la vague, c'était pour moi une évidence. Il fallait que je crie vers le Seigneur. Et à chaque fois, je peux vraiment témoigner que j'ai eu des réponses. Voilà, Seigneur, tu es là. J'ai besoin de toi. Et la paix est chaque fois revenue.
Alors, est-ce que vous pouvez prendre l'exemple concret? Esclavage, libération, c'est-à-dire, vous avez vécu quoi? Vous avez demandé de parler à la première personne, mais jusqu'au bout.
Alors, disons que je suis d'un tempérament très, très secondaire. J'ai beaucoup souffert de ma timidité. Et j'ai fait souvent le constat que je ratais des occasions de parole, des occasions de gestes, en m'apercevant que, bah oui, c'est trop tard. Et donc... à un moment donné, j'ai confié ça au Seigneur et j'ai eu un déclic. Alors c'est plus dans la libération peut-être qu'il faudrait que je développe ça, mais...
On en est à esclavage-libération quand même, hein. Après on parlera de la traversée du désert.
Voilà.
Mais on verra le détail après.
Oui. Et donc ce cri, ça a été de dire « Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. » Et la libération, elle s'est faite par un déclic. Donc on se retrouvait souvent avec des personnes pour des formations et un ami, un frère, hein, merci Daniel, m'a dit « François, il faut que tu oses, il faut que tu n'aies pas peur de te mettre en avant ». Alors que moi, j'avais souvent un petit peu des bons arguments, une fausse humilité à me dire « mais non, il faut pas se mettre en avant, etc. » Et du coup, je restais passif. Et donc, il m'a comme encouragé à oser. Et donc, je me souviens qu'un jour, il m'a dit « bon, ben, écoute, la prochaine fois qu'on se voit, c'est toi qui donneras l'enseignement ». Et pour moi, ça a été un véritable déclic. Et à partir de là, j'ai reproduit et j'ai cet exercice un petit peu d'oser, hein, cette audace. Et je me souviens d'ailleurs que cet enseignement que j'avais donné, c'était sur le personnage de Pierre, qui lui, au contraire, est un personnage très méditerranéen, très spontané, qui a une véritable audace. Et j'ai beaucoup admiré cette audace de Pierre qui ose vraiment crier, qui, par exemple, lorsqu'il voit Jésus sur la mer, va lui dire bah, « si c'est bien toi, dis-moi de venir te rejoindre ». C'est-à-dire que, en fait, cette audace, elle va permettre à Dieu d'agir et elle va donner à Pierre une grâce, des grâces et aussi des leçons. Et donc, quelque part, il va falloir qu'il enjambe la barque et qu'il fasse le premier pas. Et donc, il y a à la fois la grâce de Dieu et la part humaine.
On va faire une première pause, François Dromard, et puis on va vous retrouver pour continuer ce parcours donc, avec les Hébreux. Grand parcours qui est cette deuxième partie, c'est-à-dire la traversée du désert. C'est un sujet qui est mal connu, parce que tout le monde n'est pas forcément très familier des Écritures, mais les déserts sont restés longtemps les Hébreux sont restés longtemps au désert. Il y a bien des étapes sur lesquelles on peut s'arrêter et qui parlent aussi, qui peuvent nous parler à chacun d'entre nous.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'Exode, les Hébreux et nous, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce mercredi matin et en cette presque mi-carême. Allez, on triche un peu avec vous, François Dromard, vous êtes laïc du diocèse de Toulouse et conférencier. Et ce matin, donc, on s'arrête sur le thème de l'Exode en se mettant à l'école des Hébreux. Après donc l'esclavage et la libération en l'occurrence donc symbolisée par la traversée de la mer Rouge, les Hébreux se retrouvent au désert, et c'est un chemin long, c'est un passage, c'est ce que je disais avant la pause. Ce que vivent les Hébreux au désert, c'est vrai que on n'en est pas forcément très familier. Pourtant, ils ont certes marché dans le désert, mais il y a des étapes, on va dire, bien marquées. On va s'arrêter sur quelques-unes. Vous avez découvert des choses, j'imagine, vous aussi, en vous plongeant dans ce texte de l'Exode.
Oui, il y a plusieurs événements. Il y en a qui sont plus ou moins connus.
Le veau d'or, par exemple, est connu.
Le veau d'or est connu, la manne est connue. Le fait, par exemple, que lorsqu'ils arrivent, finalement, Moïse va envoyer 12 éclaireurs dans la terre de Canaan pour essayer de voir comment est ce pays, s'il est habité.
Dès le début.
Et ça, dès le début. Et c'est un passage qui me paraît très important et il me semble qu'on ne lit pas dans la liturgie. Et pourtant, ça explique un peu la raison pour laquelle les Hébreux vont rester aussi longtemps dans le désert. Et donc, Moïse choisit 12 personnes, dont Caleb et Josué. Et ces 12 personnes vont aller en éclaireur. Et sur les 12, donc il y en a 10 qui vont revenir en disant « Oui, c'est un pays où effectivement ruisselle le lait et le miel, c'est un pays où il y a des richesses, mais c'est un pays habité. » Et habité par des géants. Et ces géants habitent des forteresses. Donc, il n'est pas question, on ne peut pas entrer dans ce pays, on va se faire massacrer. Et Caleb et Josué sont les deux seuls à dire, mais puisque Dieu nous a donné cette terre, allons-y et on n'en fera qu'une bouchée. Ayons confiance. Et c'est là que le texte nous dit que en raison d'une année par jour, puisqu'ils sont partis 40 jours, ils vont rester 40 ans dans le désert. Voilà, le chiffre étant très, très symbolique.
Alors, il y a une première étape, on ne va pas s'arrêter dessus, mais je la cite parce que je l'aime bien, celle-là. Ils arrivent à Mara. À Mara, ils ne purent boire l'eau car elle était amère, c'est pourquoi on l'a appelée Mara. Et le peuple murmura contre Moïse en disant « Qu'allons-nous boire ?» Et le murmure commence déjà. Les murmures sont très présents donc, au désert. Première étape sur laquelle vous vouliez vous arrêter, c'était, on va pas tous les faire, on va en faire les trois, donc les regrets, la manne et le veau d'or, les regrets de l'Égypte. Donc il y a des murmures tout au long de ce temps de désert. Est-ce que vous voulez vous arrêter sur un murmure en particulier?
Oui, je pense que c'est quand même important de réaliser que lorsque les Hébreux quittent l'Égypte, vous savez, c'est le récit qu'on lit à la veillée pascale et où on chante « Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire, il a jeté à l'eau cheval et cavalier ». Et donc, il y a une action de grâce, une louange. Et puis, finalement, très très rapidement, on s'aperçoit que ces mêmes Hébreux vont dire mais Seigneur, tu nous as amenés dans le désert pour nous faire mourir de faim et de soif.
Que sommes-nous morts de la main du Seigneur au pays d'Égypte quand nous étions assis auprès de la marmite de viande et mangions du pain à satiété ?
Voilà, et donc il y a une récrimination, mais surtout le fait que finalement, progressivement, les Hébreux vont rendre Dieu responsable de leur malheur. Voilà. Il y a un manque de confiance, mais Dieu nous a amenés là pour nous faire mourir.
Ça, c'est la première étape ?
Ça, c'est la première étape. Voilà. Et on s'aperçoit que, on peut les regarder tous, mais on s'aperçoit qu'ils ont tous, de la part de Dieu, finalement, c'est une invitation à chaque fois à la confiance. Et si on regarde la manne...
Alors la manne, arrêtons-nous sur la manne.
La manne, c'est vraiment un très beau... un très bel épisode qui montre aussi toute la pédagogie de Dieu.
Alors Dieu, déjà les Hébreux ont faim, tout simplement.
Les Hébreux donc, au désert, s'en prennent à Moïse, qui à chaque fois fait un petit peu le lien avec Dieu. Et donc Moïse leur dit, ben voilà, attendez, demain Dieu va vous donner quelque chose à manger. Et donc le matin, ils se réveillent et ils trouvent une espèce de galette voilà, qui jonche le sol. Et Moïse va leur dire, voilà, vous avez de quoi vous substanter, mais vous allez prendre ce dont vous avez besoin pour la journée. Et alors, il y a évidemment des petits malins qui veulent stocker un petit peu la manne. Et la manne qui est stockée, finalement, le lendemain, elle pourrit. Donc, pour bien montrer que le Seigneur donne pour aujourd'hui. Et cette démarche de confiance est à renouveler tous les jours, tous les matins. Donc les Hébreux vont voir cette manne. Et donc manne où, on dira, alors, qu'est-ce que c'est?
Justement, j'allais venir, oui, c'est ça. Manne où signifie en hébreu, qu'est-ce que c'est? Et vous dites, Dieu donne une question à manger pendant 40 ans.
Voilà, en fait, je crois que ce qui nous permet d'avancer, ce qui nous permet aussi de vivre certaines libérations, c'est de nous poser des questions. On le voit très bien dans l'éducation. Un enfant à 3-4 ans va commencer à dire pourquoi, et pourquoi si, et pourquoi ça, et pourquoi si. Et donc, c'est à partir de là qu'il va se forger sa personnalité. C'est-à-dire que c'est en se posant des questions qu'on grandit dans la liberté. Hein? Voilà. Lorsqu'on ne se pose plus de questions, on est soit esclave, soit mort.
Troisième étape, le veau d'or, beaucoup plus connu. Ce que je savais moins, c'est qu'à ce moment-là, Moïse, descendant de la montagne, sans flamme de colère, jette les tables de la loi, donc celles que Dieu a écrites de sa propre main, pour les briser.
Oui, alors cet épisode aussi est très, très énigmatique. Moïse va remonter dans la montagne et là, Dieu va lui dicter les paroles, les 10 commandements, et c'est Moïse qui va les réécrire. Et donc, comment peut-être interpréter cette réécriture? C'est de se dire que finalement, nous avons besoin d'interpréter. Et là, tout le livre de l'Exode et toute la Bible nécessite une interprétation. Ce n'est pas une lecture fondamentaliste qui nous ferait très vite nous donner une image de Dieu qui serait insupportable.
Alors, si on s'arrête donc sur ce désert, on aurait pu s'arrêter sur bien d'autres passages du désert, mais en tout cas, on a choisi ces trois-là. Et nous, François Dromard, ce temps de désert, pourquoi nous invitez-vous à faire un parallèle entre les Hébreux et nous?
Alors, je pense que ce qui me paraît important, c'est justement cet acte de confiance. C'est de refaire chaque jour cet acte d'abandon. Et sur l'exemple que je prenais tout à l'heure sur ma...
Alors, parlez de nous en général, peut-être. Et puis après, vous prendrez votre exemple particulier. Est-ce à dire qu'en fait, on a tous des grands déserts à traverser et qu'on pourrait passer à côté déjà. Alors on peut imaginer que comme on a dans la première partie de l'émission, enfin regarde la première partie, on s'est rendu compte qu'on était en esclavage, on a crié, après on doit traverser le désert. Donc si on reprend juste peut-être le début, le désert en fait on pourrait chacun le traverser rapidement, mais dans le fond on tourne souvent en rond.
On tourne souvent en rond parce que justement on est pris par nos mécanismes de défense, par cette carapace dont je parlais tout à l'heure, qui fait que finalement on est d'une certaine manière programmé à toujours retomber dans les mêmes fonctionnements. Par notre tempérament, par notre histoire, par notre blessure, on a mis en place des mécanismes de défense qui font qu'on se retrouve toujours à fonctionner de la même manière. Et c'est ce qui, à un moment donné, il faut que ça grippe pour qu'on puisse se dire « Seigneur, au secours, j'ai envie de changer, je ne veux plus rester dans ce... de tourner en rond dans mon désert, je veux vraiment être libéré. » Donc il y a d'abord une prise de conscience, un cri, et puis vraiment de faire un acte de volonté et de déposition un peu devant le Seigneur pour vivre une véritable libération.
Et alors on passe tous d'une certaine manière par ces étapes là, par l'eau de Marah qui est amère, par la manne, par les regrets, par les murmures.
Oui, par le serpent des reins aussi, par justement cette tentation de vouloir des solutions magiques, de vouloir des transformations radicales.
Que Dieu fasse tout.
Que
nous,
Dieu
peut-être.
Fasse tout, et puis que nous finalement ça change, alors qu'on s'aperçoit que on a tous vécu des moments forts, des moments de grâce, des moments où on a l'impression d'être sur un petit nuage, et on redescend un petit peu de la montagne, dans la plaine et dans notre vie quotidienne. Et là, le réel revient et on s'aperçoit que c'est difficile et que en fait cette libération, elle va se faire, elle va se vivre par la répétition, par les actes de confiance qu'on va redonner chaque jour.
Alors, si on prend votre exemple, donc cet exemple que vous avez personnel, que vous avez eu la gentillesse donc de nous partager en début d'émission, cette difficulté que vous aviez en fait à vous faire confiance. Si vous prenez ce récit donc des Hébreux au désert et qu'on s'arrête sur les étapes, par exemple les regrets, vous, quels étaient vos regrets ou vos murmures?
Mais mes murmures, c'est que j'étais toujours en train de me culpabiliser sur le fait que j'avais pas réagi, j'étais passé à côté, j'avais loupé, je m'étais pas engagé au bon moment, et donc quelque part, je ratais quelque chose.
C'est-à-dire que vous mettiez Dieu en procès d'une certaine manière, comme l'ont fait les Hébreux, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Pas forcément, mais j'avais vraiment ce désir aussi de d'en sortir, de témoigner. J'ai vraiment une passion aussi pour la parole de Dieu et j'avais envie de la partager. Et je savais pas comment faire. Donc à un moment donné, j'ai dit mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi. Voilà.
La manne, qu'est-ce que ça aurait été dans votre désert, la manne, sur ce sujet? Quelle était la question, par exemple? Qu'est-ce que c'est, cette question que Dieu vous donnait à grignoter ou à manger au désert?
Voilà, je crois que c'est vraiment de se poser les questions. C'est de c'est chaque matin de se dire tu peux y arriver, tu peux oser. Chaque matin est un jour nouveau. Ça va pas recommencer forcément comme d'habitude. Tout est possible. Voilà. Tout est possible.
La manne, c'était quelque chose de plus concret aussi, en dehors d'une question pour vous. Quelle était la manne qui vous aidait à tenir au désert? Ça vous reviendra.
Oui.
Le veau d'or, quel a été votre veau d'or dans cette traversée du désert?
Le veau d'or, je crois que c'est pour les Hébreux comme pour moi, c'est de faire attention à ne pas se fabriquer un Dieu à notre image. C'est d'accepter de se d'être déstabilisé. En forgeant un veau d'or, les Hébreux, ils veulent un Dieu qui leur ressemble. Et nous, souvent, on aimerait que Dieu soit beaucoup plus conforme un peu à notre image. Et Dieu nous bouscule, Dieu nous invite, nous déstabilise. Et c'est pas sécurisant. Hein. On en revient toujours à cette notion de liberté. Les, les Hébreux, finalement, ils récriminent parce qu'ils désirent plus la liberté, la sécurité que la liberté. Et alors, par exemple, dans la crise qu'on traverse en ce moment, on peut se poser la question, qu'est-ce que l'on recherche vraiment? Est-ce que c'est la sécurité ou est-ce que c'est la liberté?
En tout cas, votre veau d'or à vous, c'était une certaine idée de Dieu, c'est ça?
Oui, je crois.
C'est-à-dire pas un Dieu qui ne vous laissait pas faire votre part, en fait, qui ne vous prenait pas tant au sérieux que ça?
Voilà, et donc de... moi, j'ai pris aussi conscience personnellement que ma part était très importante. On parle beaucoup, et c'est très important, de la confiance, tout est grâce. Je crois que c'est la maxime de Saint-Ignace de Loyola qui dit « Nous sommes invités à faire tout comme si tout dépendait de nous, mais en sachant que tout dépend de Dieu. » Donc il y a, et c'est ce que je disais par rapport à l'audace, c'est-à-dire que l'audace, le fait d'oser, permet à Dieu de donner sa grâce. Si on ne fait rien, si on ne bouge pas, ben, le Seigneur attend. C'est cette belle image de l'Apocalypse où Jésus frappe à la porte et il y a des représentations, et notamment Thérèse de Lisieux qui a repris cette représentation, qui montre que Jésus frappe à la porte et cette porte n'a pas de poignée, pour bien signifier que ce n'est que celui qui est à l'intérieur qui ne peut l'ouvrir. Dieu ne peut pas nous forcer, il est là, il attend patiemment. Voilà, donc nous avons à oser ouvrir la porte, à oser faire le geste.
Allez, on va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver pour peut-être continuer à parler un tout petit peu du désert. On n'en est peut-être pas complètement sorti, et puis parler de cette terre promise. La terre promise, c'est vrai que ça fait rêver tout à chacun, en tout cas quand il suit un peu la liturgie. Mais on peut se dire peut-être trop facilement que la terre promise, c'est pour demain ou c'est pour après la mort. Et ça n'est pas votre conviction.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'Exode, les Hébreux et nous, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce mercredi, avec, allez, en guise de, enfin comme je l'ai dit, donc en guise de mi-carême d'une certaine manière, en tout cas pour l'émission Vivante Église, François Dromard, laïc du diocèse de Toulouse, conférencier qui nous tient par la main avec les Hébreux pour nous parler de nos vies. Alors c'est vrai que quand on vous écoute, ça paraît plus concret, on va dire, hein, le chemin du carême. Vous vouliez revenir un petit peu sur le désert, une chose qui vous tenait à cœur. Alors, on n'a pas aussi parlé des moyens, hein, François Dromard, mais bon, on en parlera peut-être juste après. C'est que ces étapes ne se font pas forcément dans l'ordre qu'on a décrit.
Alors, je crois que la libération, elle va s'opérer par des répétitions. Dans mon cas... j'ai toujours le même tempérament, j'ai toujours cette difficulté à réagir, et donc c'est à chaque occasion qui m'est donnée où je suis invité à oser, à faire un pas, à me forcer d'une certaine manière pour pouvoir parler, réagir, faire quelque chose que j'avais au fond de moi et que je n'ose pas faire. Et finalement, c'est en répétant que finalement ce processus de libération se concrétise et que ça devient de plus en plus facile, entre guillemets. Hein, parce que, à chaque fois, le Seigneur m'accompagne, mais à chaque fois, je refais cette démarche, ce choix. Voilà.
À propos du désert aussi, tout à l'heure, vous avez dit que les Hébreux, pardon, auraient pu sortir du désert plus vite. Donc, pour ceux qui peut-être n'avaient pas suivi, vous pouvez peut-être rappeler cet épisode et puis nous dire pourquoi c'est important de l'avoir en tête.
On a vraiment l'impression que les Hébreux, ils tournent en rond et qu'ils auraient pu entrer dans la terre promise beaucoup plus rapidement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils demeurent un petit peu dans leur difficulté et dans notre vie, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que on se lamente bien souvent de retomber toujours dans les mêmes travers et on s'est dit mais enfin Seigneur, pourquoi tu m'aides pas, tu me guéris pas, voilà, plus rapidement.
Et donc on pourrait camper quelque part dans le camp du Seigneur plus vite, selon cette belle expression.
Alors, on peut camper dans le désert et puis on peut aussi décider d'en sortir et de marcher vers la terre promise. Il y a toujours un acte de volonté.
À propos du désert, hein, on l'a pas forcément dit, mais vous disiez que le premier constat, donc, c'est de se rendre compte qu'on est blessé. Et le moyen ou le remède, c'est la connaissance de soi. Le deuxième constat, c'est donc de se rendre compte qu'on est dans une forme de dépendance d'amour. Et là, c'est l'importance de la prière. Ça va aussi avec la répétition que vous venez de mentionner. Parce qu'on peut se dire, en fait, François Dromard, là, il mélange deux plans. Il y a la vie spirituelle. Et puis là, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il avait une difficulté personnelle. Et donc, il a fait peut-être un chemin psychologique. Vous nous dites qu'en fait, les deux sont liés. Et que Dieu agit par la prière, y compris sur notre psychologie.
Absolument, absolument. Je pense que là, il y a toute la dimension de la relation d'intimité avec le Seigneur. Lorsque nous vivons et nous fondons notre vie sur la prière, la relation avec Dieu devient concrète, elle devient le Seigneur m'accompagne tous les jours. Je veux dire, si je fais appel à lui, c'est parce que j'essaye de vivre avec lui.
Ça, c'est la prière. Troisième constat, vous dites que c'est important en fait, de se rendre compte que c'est un peuple qui a été libéré. Pourquoi c'est important et quel est le moyen cette fois?
Alors, là... Il y a aussi cette notion de peuple, notion qu'on n'est pas tout seul, qu'on vit avec d'autres. Il y a toujours cette relation fraternelle. Dans mon histoire personnelle, voilà, ça a été un ami qui m'a encouragé à un moment donné et qui m'a stimulé. Voilà, nous, comme dit Saint Augustin, Dieu nous a créés tout seuls, mais il ne veut pas nous sauver sans nous et sans les frères. Et donc, on a besoin de la relation fraternelle. Et les Hébreux sont invités à entrer dans la terre promise ensemble. C'est pas individuellement.
On a besoin aussi de guides, on imagine, parce qu'au désert, il y avait aussi donc un homme choisi par Dieu, d'une certaine manière.
Tout à fait. Moïse. Donc, il y a aussi la dimension d'accompagnement. Je pense que dans la vie spirituelle, lorsqu'on est accompagné, on évite beaucoup de travers et de dangers.
Alors, François de Romard, la terre promise, puisque c'est la dernière étape, donc esclavage, libération, désert, et puis terre promise. La première chose sur laquelle vous voulez attirer notre attention, c'est la fin donc, du livre de l'Exode. La nuée guide les Israélites. En fait, à nouveau, si la nuée ne s'élevait pas, à toutes leurs étapes, lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les Israélites se mettaient en marche. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne se mettaient pas en marche jusqu'au jour où elle s'élevait. C'est donc toujours Dieu qui nous précède, y compris quand on rentre en terre promise.
Dieu nous précède toujours, ça c'est sûr. La grosse découverte aussi du peuple hébreu lorsqu'ils arrivent en terre promise, c'est que c'est une terre à conquérir. C'est-à-dire que c'est pas la fin d'un chemin. Ils s'aperçoivent qu'il faut qu'ils continuent aussi à marcher. On pourrait dire que le début de l'aventure. Et ça c'est valable aussi pour nous, à un moment donné on pense qu'on est arrivé, c'est là où on se casse la figure.
Mais alors, les Hébreux quand même étaient sacrément aidés, parce que si je continue le passage, car le jour, la nuée de Yahvé était sur la demeure, et la nuit, il y avait dedans un feu aux yeux de toute la maison d'Israël et de toutes leurs étapes. C'est-à-dire que Dieu fait passer quand même en terre promise le peuple hébreu, mais manifeste à nouveau sa puissance, comme presque la traversée de la mer Rouge.
Ah, c'est la conviction profonde que Dieu est toujours avec son peuple, et Dieu est toujours avec nous. Il y a tout au long de cette histoire de l'Exode, cette attitude de l'homme qui est infidèle et cette attitude de Dieu qui lui est toujours fidèle, il est toujours là, il est toujours présent.
Alors à quoi ça ressemble la terre promise ? C'est vrai que la terre promise, souvent on s'en fait l'idée que c'est après la mort. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait il faut qu'on se rentre dans la tête quelque part, qu'on peut vivre une forme de terre promise dès ici-bas.
Alors, je pense que, comme on a dit que la traversée du désert, cette période-là, c'était notre vie quotidienne, l'entrée dans la terre promise, c'est aussi notre vie quotidienne, c'est notre vie dès maintenant. C'est le déjà-là du royaume. Si nous croyons en la vie éternelle, c'est pas pour après, c'est pour maintenant. C'est déjà-là. D'une certaine manière, c'est ce qu'on vit par exemple dans l'Eucharistie, nous sommes dans le royaume. C'est pas pour après. Nous sommes déjà des enfants bien-aimés du Père et dans la vie éternelle.
Vous aviez l'image d'un théologien que vous vouliez reprendre, qui s'appelle Oscar Kuhlmann.
Ah oui, donc pour parler de cette notion du déjà-là et du pas encore. Donc ce théologien prend l'image de la Seconde Guerre mondiale et du débarquement pour expliquer qu'en fait, lorsque les forces libres débarquent en Normandie, pratiquement la victoire est gagnée. Voilà, et donc c'est le jour de la victoire. Sauf que l'armistice n'a été signé que quelques années plus tard. Donc le combat va se poursuivre. Donc le débarquement, c'est le déjà-là. C'est-à-dire que, nous avons la vie éternelle. Notre vie éternelle est déjà commencée. Mais cela implique que nous soyons encore dans cette période du pas encore qui ne sera vraiment concrétisée complètement qu'au moment de la venue en gloire du Christ. Et donc cette période-là est un combat, mais un combat où nous avons la certitude qu'il est déjà gagné.
Alors, cette terre promise, pour vous, elle ressemble à quoi? Vous me direz finir par être invité de temps en temps dans une radio pour partager ses conférences et ses réflexions. C'est déjà presque la preuve par l'exemple que le secondaire que vous êtes, c'est à gagner.
Alors, je crois que l'exemple que je pourrais donner, c'est justement d'avoir cette conviction que je peux vivre dans une profonde intimité avec le Christ et que donc lorsque je suis avec lui, je suis déjà dans le royaume.
Oui, mais si on regarde l'histoire personnelle que vous nous avez partagée, ça donne quoi?
Ça veut dire que
la difficulté que vous avez partagée.
Avec le Christ, je peux avoir l'audace de Pierre, je peux avoir l'audace de Marie-Madeleine qui brave tout pour se mettre au pied du Christ. C'est-à-dire que les limites sont repoussées. Voilà. Tout est peut-être possible. Tout est possible.
Ce qu'on peut se dire, François Dromard, aussi à la fin de cette émission, c'est que ça peut apparaître un peu volontariste aussi, ce chemin. Qu'est-ce que vous diriez à cette critique?
Je crois qu'il faut.
On peut entendre aussi que le chemin qu'on ne fait pas, bah, d'une certaine manière, c'est de notre faute parce qu'on n'a pas assez la foi. Et ça, c'est parfois ce qu'on entend dans certaines églises.
Je crois qu'il faut tenir les deux. Tout est grâce. Tout est une question de confiance. Mais la confiance, c'est vraiment de faire un saut dans la foi. Vraiment de. D'oser. J'en reviens à cette histoire de Pierre. S'il n'avait pas dit à Jésus « Dis-moi de venir te rejoindre », il serait resté dans la barque. Ça ne serait rien passé. Donc, quelque part, notre audace permet à Jésus d'opérer les miracles. Je pense par exemple aux quatre porteurs qui amènent le paralytique à travers le toit. Quel exemple merveilleux de foi de ces porteurs qui ne sont arrêtés par rien. Il y a une foule, ils ne peuvent pas, ben non, allez, on passe par le toit et puis on y va. Et c'est ce qui permet la guérison. Bien sûr que tout est grâce. La guérison vient de Dieu. On n'y est pour rien. Tout est gratuit. Mais tout dépend de nous aussi.
Eh ben merci François Dromard de nous avoir pris par la main pour suivre les Hébreux au désert. Un grand merci à vous. À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.